C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, Homère, poète de langue grecque, fin du 8e siècle avant notre ère. Œuvre, Iliade, Odyssée. Personnage, Aias, en français Ajax, dit Ajax le Grand. Il y a deux Ajax dans Homère, Ajax le Grand et Ajax le Petit. Ajax le Petit ou encore Ajax le Rapide, qui apparaît moins souvent et a moins d'importance symbolique, est le roi des Locriens. La Locride étant une région de la Grèce continentale en face de l'île d'Eubée. Il n'a pas son pareil pour lancer la javeline. Ajax le Grand est le fils du roi de Salamine, Télamon, d'où son autre appellation de « fils de Télamon ». Il est un des plus valeureux soldats de l'armée des Achéens, assiégeant Troie, et reste dans les mémoires pour sa mort furieuse. Après celle d'Achille, contrairement à son désir, il n'obtient pas ses armes. Dans la nuit, fou de rage et de douleur, il extermine tout un troupeau de moutons qu'il confond avec des guerriers, puis, sorti de son hallucination, se suicide. Ne pourrait-on pas dire que la honte mal placée tue toujours, même si on ne se suicide pas, dans la mesure où elle fait disparaître en nous une part humaine que nous dissimulons? On ne connaît cette aventure que par Homère, qui l'a peut-être créée. Les mots de créateur et de création sont ambigus. Ils donnent l'impression d'un dieu tout-puissant qui lancerait sur la terre des créatures jaillies de sa main. La création, d'après ce que j'en éprouve, c'est comme une huître. Un grain de sable fait perle. Admettons qu'Ajax ait existé. On pourrait supposer qu'il a, disons, donné un simple coup de pied de rage dans la porte d'une bergerie, après avoir appris que les larmes d'Achille avaient échu à Ulysse et que, partant de ce grain de sable, l'imagination d'Homère ait fait perle en inventant la scène extraordinaire qui, je puis dire, a fait mémoire en nous. Ajax apparaît essentiellement dans l'Iliade, mais dans l'Odyssée, Homère imagine qu'Ulysse voit son fantôme lui apparaître. Ulysse, d'autant plus magnanime qu'il a remporté les armes d'Achille, le regrette à présent et s'adresse à Ajax « Allons, allons, réconcilions-nous ». Alors, l'ombre d'Ajax, dans une scène extraordinaire, regarde Ulysse et sans rien lui dire, retourne hautainement parmi les morts. Dans quelle mesure les personnes que transporte Homère dans son épopée sont-elles des personnages? Est-ce dans la même mesure que le Louis XIII d'Alexandre Dumas a des rapports assez vagues avec le Louis XIII authentique, c'est-à-dire qu'il révèle plus le tempérament de celui qu'il a créé que le roi de France tel qu'il l'a été? Qu'est-ce qu'Ajax nous dit d'Homère? Qui est Ajax? Pour en parler, je reçois Hélène Monsacré, éditrice, directrice d'une édition de l'intégralité des œuvres connues d'Homère dans une nouvelle traduction, Tout Homère, coédition des Belles Lettres et d'Albin Michel. Hélène Monsacré, à quoi ressemble physiquement Ajax, ce musculeux combattant qui fait l'effet d'une sorte de Murat auprès de Napoléon?
Ajax est un immense guerrier, pas seulement par les exploits qu'il accomplit tout au long du poème, mais par sa prestance, sa physionomie. C'est une tour, c'est une muraille, c'est le rempart des Achéens. Il dépasse tous les guerriers par la taille, par la largeur de ses épaules. C'est vraiment une montagne.
Est-ce que c'est un nom courant dans la région de l'Attique, Aias? Et est-ce que, si oui ou non, est-ce que ça a une consonance aristocratique? Est-ce qu'on peut dire ça?
Alors, l'étymologie de ce nom est très obscure. J'ai un petit peu révisé. Et on pense que soit par la répétition de l'onomatopée Aï, qui veut dire hélas, qui est un son de douleur, de plainte, aïe aïe, soit il n'y a pas d'étymologie sûre de ce nom. La tragédie fait qu'on pense toujours à la douleur d'Ajax, mais ça n'est pas particulièrement ni aristocratique, ni répandu.
Alors, Ajax dispose d'un des équipements légendaires de l'Iliade, hein, à l'instar de la cuirasse d'Agamemnon ou du casque de Mérion, et c'est son bouclier.
Alors, son bouclier, petite précision, Télamon, le père d'Ajax. En grec, Télamon, ça veut dire le baudrier. Et le bouclier d'Ajax est si large, si lourd. Il est composé de 7 couches de cuir, de bœuf, avec une plaque de métal. Il est absolument gigantesque puisqu'il recouvre le corps quasiment en entier. Qu'il est si lourd que pour le supporter, il faut une sorte d'attache, d'où le baudrier. Et Télamon, c'est le baudrier.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que, après tout, c'est un créateur comme les autres, et moi je pense que le génie s'accompagne toujours de l'amusement, est-ce qu'on pourrait imaginer que j'allais dire Socrate, que Homère s'est amusé à créer aussi des calembours dans ses dénominations?
Je pense que vous avez tout à fait raison, il y en a absolument partout des calembours. Songez à la fameuse scène dans l'Odyssée, Métis, Outis, personne, nanana. Songeons à toutes les ruses et les jeux de mots que l'on trouve tout au long des deux poèmes, oui. Il y en a beaucoup.
Alors, on sait qui a fabriqué ce bouclier. Je le dis, c'est un certain Tychios qui résidait en Boétie. Et si je le dis et si Homer le précise, ça veut dire que ça n'est pas une arme qui fait partie des armes d'origine divine qui sont nombreuses dans l'épopée.
Oui, il y en a, surtout on pense à celle d'Achille. Mais ce bouclier énorme, très, assez certainement, évoque un armement très, très archaïque. Et ça, c'est peut-être aussi intéressant pour notre Ajax le Grand. Uh-huh. C'est qu'il est un petit peu là, l'emblème du guerrier lourdement équipé, qui n'est jamais présenté avec un cheval, qui ne court pas, qui est donc, ce bouclier, il est lourd comme, pense-t-on, les premiers équipements des guerriers de la période très archaïque.
Et ça, c'est très marqué dans l'Iliade, par son armement et son équipement par rapport à ceux des autres?
C'est marqué dans le sens où ça c'est assorti à sa stature. Il est le seul à pouvoir porter ce bouclier. Et d'ailleurs, dans une suite composée bien plus tard par Quintus de Smyrne, la suite d'Homère, on voit un duel imaginé entre, un nouveau duel entre Hector et Ajax. Le coup, la pointe de la javeline d'Hector ne peut même pas transpercée. Elle arrive malgré tout à l'endroit où elle devrait, là, à l'endroit où la jointure de la mâchoire et du cou est une ouverture facile, mais ce bouclier est si puissant qu'il renvoie. On ne peut pas le franchir.
Alors Ulysse vient d'Ithaque, c'est-à-dire d'une certaine façon d'assez loin, de l'autre côté de la Grèce, vers l'Occident et qui plus est du Nil. Donc d'une certaine façon c'est un décentré, alors que Ajax, lui, vient du cœur géographique de la Grèce.
Oui, et d'ailleurs Ajax est un si grand héros que dès la plus haute antiquité, dès la période classique, certaines tribus d'Athènes et tribus vont se réclamer d'Ajax.
Lui est d'où ?
Salamine. Salamine, c'est tout proche.
Près d'Athènes.
C'est tout proche d'Athènes. Et c'est ce qui permettra, pense-t-on, à Milciade notamment, de réclamer une sorte d'hégémonie en tant qu'il est issu de cette lignée, une hégémonie sur tout le Golfe. Donc, il est très célébré à Athènes. Il a une statue. On a retrouvé beaucoup d'éléments qui montrent qu'Ajax fait l'objet d'un culte. Il y a des fêtes qui lui sont consacrées. Tout ça en Attique.
Non sans esprit, Homère dit, je cite la traduction de votre édition, « Parmi les hommes, Ajax, fils de Télamon, était de loin le meilleur, aussi longtemps qu'Achille restait en colère. »
Voilà. Alors, c'est très très intéressant, cette sorte de gémellité entre Achille et Ajax, fils de Télamon. Les deux d'abord ont un grand-père commun, Éaque. Donc tous deux ont une ascendance divine. Ensuite, si vous relisez l'Iliade, vous voyez que jusqu'au chant 18, c'est-à-dire les deux tiers du poème, Achille ne combat pas. En revanche, celui qui combat du premier au dernier moment de cette séquence, c'est Ajax. Ajax est une sorte de substitut d'Achille, c'est aussi une sorte de double, mais un double qui a ses propres limites, si je puis dire, qui sont immenses malgré tout, les limites, c'est que autant Achille est offensif, autant Achille avance, va toujours à l'assaut, autant Ajax défend, tient, résiste, ne bouge pas tant que ça.
Ça n'est pas un stratège.
Ça n'est pas un stratège, c'est un rempart. Il tient, c'est la tour qui tient. C'est l'homme qui, même de son corps gigantesque, fait écran.
Alors, il y a une chose frappante, c'est qu'il a des duels, beaucoup. Et alors, je voudrais vous poser une question, c'est, je me demande dans quelle mesure ces duels étaient une coutume guerrière, si on peut le savoir, de la Grèce archaïque, ou si ça pourrait être une création d'Homère qui doit bien peupler d'événements son épopée, parce que qu'est-ce qu'on a dû s'ennuyer pendant le siège de Troie s'il a duré 10 ans?
Oui. Alors, vous savez, on pense très souvent que le grand poème de la guerre, l'Iliade, est absolument empli de duels. Certes, il y en a, mais au fond, il y en a beaucoup moins que des affrontements des deux armées. Le duel, c'est la pointe extrême de l'héroïsme, c'est-à-dire deux champions qui sont toujours de très haute naissance. C'est Hector, c'est Ajax, c'est Achille. Bon, il y a des duels ridicules et grotesques. Ménélas qui cherche absolument à attraper Paris, qui se réfugie très très vite dans sa chambre à coucher. Donc le duel, c'est le moment, c'est une sorte d'acmé au fond, le combat singulier. Il y en a peu.
Il me semble que le plus célèbre, si on peut dire, des duels qu'a Ajax, c'est celui avec Hector.
Absolument, qui est un duel extraordinaire. Alors d'abord, il faut se souvenir que les deux armées décident d'essayer d'en finir avec cette guerre épouvantable et que donc on va mettre précisément en face deux champions. Pour Troie, aucune hésitation, ce sera Hector. Pour les Grecs, Achille étant hors jeu, il faut choisir. Et on tire au sort, le sort désigne Ajax. Tout le monde est très heureux. L'armée entière se réjouit. Il ne pouvait pas en être autrement. Et c'est vraiment très beau parce que les deux champions, chacun fait montre d'une très grande sûreté, d'un très grand appétit de combat, un désir de rencontrer l'autre. On a des descriptions d'armement qui sont magnifiques. Les deux endossent des armes incroyables. Et surtout, ce qui est très très beau, parce que ça résume vraiment la guerre dans l'Iliade, les effets physiques du courage sont, pour l'un comme pour l'autre, extrêmement bien décrits. Ils sont très impressionnants. Et là, Ajax est terriblement impressionnant. Il est effrayant. Quand le courage entre en lui, il a des tremblements, il a une sorte de rictus et de sourire absolument terrifiant qui s'affiche sur son visage.
Et qui gagne ?
Alors, personne ne gagne, bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Ils combattent à armes égales, au fond. Et puis, au bout d'un moment, la nuit commençant à s'annoncer, les deux armées décident qu'il faut faire une trêve, il faut arrêter. Et ce qui est très beau, c'est que ces deux combattants exceptionnels se respectent, s'admirent, se respectent. Il n'y a pas de coup tordu. Et ils décident de se quitter en échangeant des cadeaux, le signe de leur à la fois haute naissance, de leur estime mutuelle. Et Hector va obtenir la ceinture d'Ajax et Ajax l'épée d'Hector. Et cette épée, elle servira plus tard.
Nous allons maintenant entendre le couplet des rois dans la Belle Hélène.
Chouette.
Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax. L'opéra bouffe d'Offenbach date de 1864.
Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax.
Les deux Ajax.
Et talent avec jactance, avec jactance, avec jactance, leur double thorax.
Leur double thorax.
Armible braquade immense des cuivres de sax.
Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax.
Les deux Ajax.
Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax. Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax.
Je suis le bouillant Achille, le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, grâce à mon plongeon.
Grâce au plongeon.
J'aurai l'esprit bien tôt. pantalonnette et mon talon. Je suis le Bouillantachille, 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 le grand Myrmidon, le Myrmidon.
Voici le Bouillantachille, Bouillantachille, le grand Myrmidon. Voici le Bouillantachille, Bouillantachille, le grand Myrmidon.
Hélène Monsacré, je voudrais pour commencer cette deuxième partie de Personnage en personne, entendre un peu le son du grec d'Homère. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me lire un peu du grec d'Homère à propos d'Ajax en grec et la traduction française ensuite ?
Oui, avec plaisir. Et vous allez entendre dans ces quatre vers deux fois le nom d'Ajax. Donc, nous sommes sur les remparts de Troie. L'armée grecque est en train d'avancer très fort devant et le roi de Troie, Priam, demande à Hélène de lui expliquer qui sont ces immenses guerriers dont les silhouettes se profilent devant eux. Totriton aotaianta idon reien o geraios. Tistar odalos akaios aner euste megaste. Exokos argeion kephalen tekai ureas omus. Ton delene tanu peplos amei beto diagunaikon. Utos daias esti pelorios erkos akaion. En troisième, le vieillard vit à son tour Ajax et interrogea. Qui est cet autre homme achéen, parfait et grand, qui domine les Argiens de sa tête et de ses larges épaules. Hélène, aux longues robes, lui répondit, divine parmi les femmes, « Tu as là l'immense Ajax, rempart des Achéens. »
L'introducteur de l'Iliade dans votre nouvelle édition d'Homère, Pierre Judet de Lacombe, révèle, vous l'avez évoqué dans la première partie de l'émission, un jeu de mots fortuit entre le nom, ou pas d'ailleurs, entre le nom d'Ajax, Aias, et le cri de désolation, Aiai. Et en effet, sa destinée change après la mort d'Achille. Comme je l'ai dit, on attribue les armes d'Achille à Ulysse, qui a été le plus éloquent. Est-ce que c'était une tradition de se répartir les armes des soldats morts à la fin des guerres ou des combats ?
Alors, toujours dans le monde de l'épopée, donc ce monde aristocratique est totalement imaginé et imaginaire, le fait de non seulement tuer un ennemi est évidemment un grand succès, mais pour que ce succès fût validé, il était indispensable de rapporter ses armes. Donc c'est ça l'enjeu de.
C'est un témoignage.
C'est un témoignage, c'est un trophée, tout simplement.
Alors, le fils d'Achille, Néoptélème, qu'on appelle parfois Pyrrhus, que Racine appelle Pyrrhus, est présent à Troie. C'est lui qui parachève d'ailleurs la guerre, sauf erreur, en tuant Priam. Comment se fait-il que ce soit Ulysse et non lui qui reçoivent les armes d'Achille après sa mort?
Alors, ça, c'est une question très compliquée parce que vous savez, les traditions nombreuses des épopées et des écrits sur la fin de Troie font que, d'un point de vue chronologique, on ne peut pas adopter une leçon plus certaine qu'une autre. Il fallait que Achille et Ajax, ça c'est déjà dans l'Iliade contenu, s'affrontent une fois de plus. Et toute la personnalité d'Ulysse, qui est un très grand guerrier, un grand stratège, mais c'est aussi quelqu'un de très rusé, et d'une certaine manière tordu, je le disais tout à l'heure, qui passe son temps à essayer de contourner pour s'acquérir le succès ou les armes. Et là, pour cette affaire d'armes d'Achille, on sait que Ajax est celui qui a combattu autour du corps d'Achille, qui l'a transporté. Alors il y a toute une série de textes qui disent qu'il fallait vraiment être Ajax pour pouvoir porter Achille, tellement il était grand, lourd et imbougeable. Et que Ulysse, lui, se contentait de faire un peu écran. Et les armes d'Achille, c'est l'objet d'une série de questions insolubles, puisqu'on pense que soit on demande à des prisonniers troyens, pour vous qui était le grec, à part Achille bien sûr, le plus valeureux, était-ce Ulysse ou était-ce Ajax ? On peut aussi trouver des exemples d'une version qui dit qu'on demande à des jeunes filles troyennes qui auraient vu dans du haut des remparts les champions grecs en pleine action, et tantôt elles disent ah ben c'est Ajax, non c'est Ulysse, etc., etc. On dit aussi une troisième version que ce sont les chefs de l'armée grecque eux-mêmes, et particulièrement Agamemnon et Ménélas, les Atrides, qui disent non. Il est évident que c'est Ulysse. Qui doit les remporter. Voilà le début des grands malheurs d'Ajax.
Alors, il est devenu, je le disais dans ma présentation, la risée du camp grec à cause du massacre des moutons qu'il a pris pour des guerriers. Il se suicide de honte avec donc l'épée qu'il a reçue d'Hector. Il se tue donc avec une épée troyenne. Est-ce que ça serait comme en quelque sorte pour hisser son suicide à la valeur d'un combat?
Écoutez, c'est très très jolie remarque, mais je pense qu'on peut la poursuivre en notant que la ceinture d'Ajax, qui a été échangée lors du duel, un des duels importants du champ 7, c'est avec cette ceinture qu'Achille va attacher Hector pour le traîner derrière son char. Donc vous voyez cette construction qui est quand même magnifique, qui est toujours terriblement impressionnante. Bien sûr que l'épée d'Hector, c'est une manière de dire que ce moment de la guerre de Troie, ce moment du monde homérique, du monde héroïque, s'achève.
Est-ce que le suicide était courant dans la Grèce archaïque ou bien était-ce un sacrilège?
Alors le suicide n'est pas, en tout cas dans l'épopée, n'est pas courant du tout. Si on connaît certains suicides, c'est plus tard bien sûr dans la tragédie, et généralement ce sont les femmes qui se suicident et pas les hommes.
Dans les Métamorphoses, Ovide le fait se suicider, et alors il le fait immédiatement après la remise des armes d'Achille. Et dans ce cas-là, il se suicide par pure vexation. La part de honte qui est dans Sophocle n'est pas là du tout, me semble-t-il.
Non.
Et donc, en fait, où Ajax est-il le plus nuancé, le plus mystérieux, le plus complet? Est-ce que c'est, d'après vous, dans Homère? Est-ce que c'est dans Ajax? Est-ce que c'est chez un Romain comme Ovide?
Alors, pour moi, c'est sans aucun doute chez Sophocle, dans la tragédie. Parce que, au fond, il y a ce moment de folie, il a perdu la tête, tout ça est totalement téléguidé par un dieu. La folie, c'est un dieu qui vous l'envoie, ça vous entre à l'intérieur de la tête ou du corps, comme le courage ou la peur. En l'occurrence, c'est Athéna qui lui fait perdre l'esprit, qui lui trouble l'entendement, et pensant tuer les Grecs qui l'ont maltraité, mal considéré, en réalité il tue des moutons, etc. Mais chez Sophocle, il y a toute cette dimension tragique de la personne d'Ajax est très impressionnante, parce que cette folie est suivie évidemment d'une sorte de moment d'hébétude. Il ne comprend pas ce qui lui est arrivé, il reprend peu à peu ses esprits, et là, la honte absolument le submerge. Mais c'est une honte qui n'est pas que d'avoir commis un forfait, c'est surtout la honte de se dire « Mais qui suis-je, moi ? Comment ai-je pu faire une chose pareille ? Comment puis-je envisager de rentrer chez mon père et de me présenter devant lui ?» Moi qui vais rentrer sans trophée, sans honneur, la honte au front et au cœur, je ne peux plus avoir la moindre estime de moi-même et je dois disparaître. Donc c'est tout de même une épaisseur et une complexité de caractère qui, je crois, est très intéressante.
Alors, il y a la question de la folie que je voudrais évoquer brièvement, parce que on a, je crois, une idée de ce qu'était la folie chez les Grecs, d'après le Phèdre en particulier, de Platon, où il en établit fameusement une catégorisation. Mais tout ça, c'est 500 ans après Homère. Est-ce qu'on a la moindre idée de ce qu'était la folie pour les Grecs archaïques?
Alors, encore une fois, je parle avec les mots de l'épopée. Quand un guerrier est absolument possédé par la fureur, généralement, c'est une fureur guerrière, puisqu'on est occupé à faire le siège d'une ville et d'un royaume. Le mot qui est employé, c'est Lussa. Lussa, c'est vraiment la folie, mais qui vous déchaîne, qui vous rend absolument sauvage. Plus tard, on parlera de mania, comme vous savez, la manie. Mais la vraie folie sur le champ de bataille de l'Iliade, c'est la folie d'Arès. Arès, c'est la guerre, c'est le dieu de la guerre, qui est plein de cette espèce de sauvagerie qui rend celui qui en est imprégné, qui le rend totalement incontrôlable, qui fait qu'on n'a plus aucune espèce d'entendement, aucune espèce de mesure. C'est par exemple ce qui caractérise Achille quand il se met à combattre contre un dieu qui est un fleuve. Souvenez-vous de ce chant magnifique où Achille se bat contre le Scamandre. Il est totalement fou furieux. Et pour arriver à le calmer, c'est un autre dieu, ça c'est un des moments les plus beaux, je trouve, de l'Iliade, qui va intervenir, c'est Héphaïstos. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire mettre le feu dans l'eau.
Est-ce qu'Ajax, ou un autre des guerriers de l'épopée d'Homère, a moindrement, à quelques moments que ce soit, un doute sur la guerre et la valeur de la guerre?
Je pense que beaucoup l'ont. Et je pense que le premier d'entre eux, c'est Achille, là, du début à la fin. Le doute sur la guerre, c'est-à-dire le doute sur le sens de la guerre. Le sens de la guerre, c'est atroce. C'est ce qui signe la condition humaine, c'est-à-dire qu'on va y perdre sa vie. On va y perdre sa vie, mais on va accomplir de grands exploits et donc on continuera d'exister dans la mémoire de ses descendants et même de la communauté grecque dans son entier, puisqu'on sera chanté par l'épopée précisément. Mais la guerre n'est pas quelque chose qui est valorisé dans le sens où on n'aime pas la guerre. Ni Ajax, ni Achille.
Est-ce que j'exagère et j'apporte, je surinterprète à la façon du 21e siècle et de l'humanisme qui est passé sur moi en disant que le réveil à la conscience d'Ajax après qu'il a exterminé les moutons et qu'il est pris de honte, du moins dans Sophocle, est aussi une manière de dire que c'est un retour sur soi, sur la guerre même?
Je pense que c'est un retour sur soi. Et je pense que c'est aussi, mais ça marche tout à fait avec ce que vous dites, c'est-à-dire dans ce système avec un ancêtre, en l'occurrence un père ultra valeureux, qui, dit-on, fut le compagnon d'Héraclès, etc., donc un héros d'une envergure exceptionnelle, il n'est pas possible que le fils soit inférieur. Et là aussi, vous retrouvez cette très belle chose dans l'Iliade. Vous savez, cette scène si belle entre Andromaque, Hector et le petit enfant là, qui a peur du casque et qui se met à pleurer. Hector lui dit à son fils, je n'ai qu'un souhait, c'est que tu sois plus valeureux que moi et qu'on dise, il est meilleur que son père. Donc, le problème d'Ajax, c'est ça. C'est qu'il a été le plus grand, à côté d'Achille, des guerriers et qu'il rentre quasiment bredouille. Bon, donc il est... tout ça est tragique.
Hélène Monsacré, que vous a appris le personnage d'Ajax?
Alors Ajax, c'est la droiture, c'est la constance, pas seulement dans sa force à tenir bon, c'est quelqu'un qui est intransigeant, c'est quelqu'un qui est émouvant chez les tragiques. Dans l'Iliade, il n'est pas émouvant. Il est... son identité, c'est d'être toujours là, présent, quoi qu'il arrive, constant, intransigeant, debout.
Comme si j'étais assis.
C'était Personnage en personne, réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Meryl Moneghetti, prise de son Marie Le Peintre.
De l'autre côté.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon BD.